Alors, aujourd'hui, c'est une seconde séance donc, concernant ce thème général de la résistance des Allemands, ou des Autrichiens, je veux dire de tous les Allemands dans le sens très large du terme. C'est pour moi l'occasion de réfléchir aux bornes, aux limites qui est le thème de cette année, et en l'occurrence ici, aux limites et aux bornes de la légalité, de réfléchir aux rouages institutionnels, démocratiques, qui régissent nos sociétés et qui peuvent faire advenir des événements comme celui de l'accession militaire au pouvoir. Alors, pour les personnes qui n'étaient pas là la dernière fois, je fais un tout petit résumé de ce qu'on a vu, parce que c'est très important, tout est lié dans cette série. Et donc, aujourd'hui, je vais aborder je vais approfondir un petit peu le phénomène de l'accession du terre au pouvoir, et puis ensuite je parlais d'exil, des écrivains, des artistes, etc. Alors vous avez projeté ici une image, vraiment un collage, bon, je vais le commenter tout à l'heure, hein, à peu près dans une heure, je vais vous commenter ça. C'est aussi un artiste allemand qui a fait cette affiche, qui est très connue pour les germanistes, quelque chose de très connu. Voilà. Alors, donc, la dernière séance, la première fois, on avait vu un petit peu quelles étaient les cibles des nazis. J'ai insisté sur les juifs parce que c'était le bouc émissaire numéro un qui servait de bouc émissaire, et derrière ce phénomène le bouc émissaire se cachait bien sûr bien d'autres motifs sur lesquels je vais venir de façon un peu plus approfondie aujourd'hui. Donc les nazis se sont servis d'un bouc émissaire qui était très ancien. Alors ce que je voulais dire, c'est pour les personnes qui n'étaient pas là la dernière fois, donc répéter un petit peu quel est l'objectif de ces quatre séances. C'est comment Hitler est arrivé au pouvoir, qui a mené Hitler au pouvoir, est possible de la légalité, c'est-à-dire de questionner la légalité. D'ailleurs, je vais en parler tout à l'heure, Hitler lui-même insistait pour parvenir au pouvoir en toute légalité. Alors là, ça questionne vraiment tout ce phénomène de la légalité. Alors, ce que j'avais dit la dernière fois, je le redis, ce qui est essentiel ici, ce n'est pas d'oublier le passé, parce que bon, ça fait longtemps tout ça, dans l'Europe actuelle, les Allemands sont nos amis, etc. Pourquoi est-ce qu'il faut réveiller ces vieilles choses? Eh bien non, il faut y penser d'abord parce que beaucoup de gens sont morts, pas seulement les Juifs, mais on va le voir tout de suite et la semaine prochaine, et les opposants, notamment en Allemagne, qui est en première ligne. Et puis, il faut, à mon sens, éclairer plutôt que refouler. Donc, c'est une petite histoire des zones grises de l'histoire que je vous propose contre les refoulements manichéens. Bien entendu, je le répète quand même, il ne s'agit pas du tout de prendre parti pour les Allemands, mais il ne faut pas tomber dans un racisme à l'envers, parce que les Allemands, ça n'existe pas, on va le voir de façon plus approfondie tout de suite. Il y a eu des nazis convaincus, il y a eu des gens qui se sont fait manipuler, il y a eu du mouton, il y a eu des courageux, il y a eu des résistants, comme partout ailleurs dans toutes les dictatures et comme partout ailleurs dans tous les pays du monde. Il ne faut pas faire, je le répète, de racisme à l'envers. Parce que souvent, on entend dans des émissions, oui, il y a des Allemands, c'est le peuple qui, etc. Ils n'ont absolument rien dit pour un historien. Donc, ce que je cherche ici, c'est relativiser le regard franco-français et relativiser la mémoire. Alors, je fais un petit retour sur la séance dernière, qui était très importante. On avait vu, je vous le rappelle, on a fait un petit historique de l'antisémitisme, qui est d'ailleurs un mot pas approprié du tout, mais j'utilise parce que c'est le mot qui est utilisé en général, mais bon, je ne reviens pas là-dessus, pas vous détailler le sens de ce mot. Un petit historique de la persécution des Juifs dans l'histoire depuis l'Antiquité romaine. Alors je vous rappelle que les Juifs. Sur le cours des rumeurs qui sont populaires. Ce qui est très important, c'est que les Juifs sont exclus des guildes, des corporations de métiers, parce qu'ils ne peuvent pas prêté le serment sur le Nouveau Testament, et du coup, ils sont exclus des métiers, et en conséquence, ils vont se consacrer à ce qui est interdit aux chrétiens, c'est-à-dire le commerce et le prêt, surtout le prêt à usure, c'est-à-dire le prêt avec intérêt. Donc, à partir de là, depuis le Moyen-Âge, les Juifs sont identifiés à l'usure, au prêt d'argent, à des intérêts exorbitants. Et donc, bien sûr, ces Juifs vont s'enrichir au cours de l'histoire, et comme ils détiennent la richesse, eh bien, souvent ce sont des banquiers, des gens qui détiennent beaucoup d'argent, donc ils vont susciter la jalousie. Et au 19e et au 20e siècle, au siècle qui nous intéresse, dans les pays où ils sont nombreux, je vous avais donné des chiffres la dernière fois, ils sont nombreux à l'Est, je vais revenir tout de suite là-dessus, ils détiendront les postes clés dans la banque et dans la grande industrie. Et ça, c'est un motif essentiel pour la prise au pouvoir d'Hitler. Alors, j'avais précisé la dernière fois, je défends un petit peu le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge n'est pas la pire époque en matière d'antisémitisme, loin de là. Il y a bien sûr des rumeurs populaires, des assassinats comme ça ponctuels dans les villages. Mais le haut clergé, les princes, s'opposent aux rumeurs et aux pratiques populaires. Et puis, j'avais montré que l'empereur, en particulier Frédéric II de Hohenstaufen, mais il y en a d'autres, ainsi que les princes, le haut clergé, les évêques et même le pape, protègent les juifs très souvent. Pour des raisons, bien entendu, pas du tout philanthropiques, hein. Ils les protègent parce que, pour des raisons économiques, parce qu'ils leur prêtent de l'argent, parce qu'ils leur fournissent des impôts, des taxes, etc. Alors, en tout cas, ce qui est important à retenir pour le Moyen-Âge, on l'avait vu la dernière fois dans le détail, au Moyen-Âge, l'Église ne manifeste aucun désir d'éliminer physiquement les Juifs. On les met un peu à part, ce sont des sujets inférieurs, etc., pour toutes les raisons qu'on a vues la dernière fois, mais il n'y a pas volonté de les éliminer. Les Juifs dans les pays allemands aussi, pour casser un petit peu les préjugés, eh bien, ils sont relativement bien protégés dans l'Empire germanique au Moyen-Âge, puisque les empereurs leur accordent des privilèges et leur accordent leur protection. Et puis, lors de la première croisade, au XIe siècle, lorsqu'il y a eu ces massacres, les croisés ont massacré des communautés juives dans les pays allemands, eh bien, l'empereur les a protégés, ces juifs, et ça va être une pratique qui va perdurer jusqu'au XVIe siècle dans les pays allemands, puisque en 1516 encore, l'empereur Maximilien publie un privilège pour les Juifs d'Alsace. Bon, malgré tout, en 1648, ils sont quand même chassés de l'Empire. Les États les plus persécuteurs, je le rappelle, au Moyen-Âge, sont la France et l'Angleterre. Alors, avec Philippe Auguste, au XIIe siècle, qui est le premier monarque de la chrétienté, a expulsé les Juifs de son royaume et le premier à introduire à Paris, au XIIe siècle, le port de la rouelle jaune, qui est l'ancêtre de l'étoile jaune. Et puis ensuite, au XIVe siècle, il y a Philippe le Bel qui expulse les Juifs et qui leur impose également le port de la rouelle. À la fin du XIVe siècle, sous Charles VI, les Juifs sont définitivement expulsés. En tout cas, la France, au Moyen-Âge, est bien pire que les papes qui, eux, protègent les Juifs depuis Grégoire le Grand au VIe siècle. Alors, les Juifs qui sont expulsés, malgré tout, ils vont se réfugier beaucoup en Pologne, très important ça, où le roi publie un privilège en 1334. C'est important parce qu'il y aura au XXe siècle beaucoup, beaucoup de Juifs en Pologne, et c'est pour ça qu'ils seront particulièrement persécutés dans ce pays. D'autres Juifs se réfugient dans les États du Pape, au Moyen-Âge, et à Rome, où ils sont assurés de vivre en sécurité. Le siècle le pire en matière de persécution des Juifs, c'est le XVIe siècle. Alors, c'est le XVIe siècle, c'est le siècle de la Renaissance, mais c'est un siècle qui a été très intolérant en matière religieuse, aussi en matière de femmes, de sorcières, etc. Alors, je fais une petite parenthèse, là, je vous reprécise que j'avais précisé la dernière fois, que je vous serait une bibliographie commentée des ouvrages sur lesquels je me suis appuyée pour ces quatre cours lors de la dernière séance. Hein. Donc là, je commenterai tout ça. Donc, je reviens sur le XVIe siècle. L'inquisition a été créée à la fin du Moyen-Âge, mais c'est au XVIe siècle qu'elle se déchaîne. Elle connaît son apogée, non pas au Moyen-Âge, l'inquisition, mais au XVIe et au XVIIe siècle, en particulier au XVIe. En particulier en Espagne, puisque à la fin du XVe siècle, le pape permet la création d'une inquisition espagnole qui est inféodée à la couronne d'Espagne et qui vise essentiellement la persécution des juifs convertis, qu'on appelait à l'époque les conversos. Alors, à partir de là, on brûle les livres, puis on continue, on brûle les personnes. Dans plusieurs villes d'Espagne, on l'avait vu la dernière fois, on multiplie les statuts de pureté du sang, c'est-à-dire qu'on va chercher chez les ancêtres 4 voire 8 générations s'il n'y a pas de sang juif. Et ça, ce qui se passe au XVIe siècle dans cette Espagne renaissante, eh bien, c'est les racines du racisme par rapport aux juifs. En 1492, les rois catholiques, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, expulsent les Juifs d'Espagne et du Portugal de façon particulièrement cruelle et sauvage. Et là aussi, je vous indiquerai un roman qui est très bien fait, qui baigne dans ces années-là. On avait vu les positions de Luther, de Calvin, je ne reviens pas là-dessus. En tout cas, ces Juifs, ils émigrent vers l'Italie du Nord, vers le royaume de Naples, vers l'Afrique du Nord, la Judée, l'Empire ottoman, mais surtout et avant tout à l'Est et en Hongrie, en Bohême, en Lituanie, en Pologne, pays, je le rappelle, très tolérant, où ils sont, ces Juifs, très bien accueillis depuis le Moyen-Âge. Alors au XXe siècle, ils sont nombreux à l'Est, surtout en Pologne. Ils sont plus nombreux en Autriche, en Hongrie qu'en Allemagne, et ça explique pourquoi l'antisémitisme sera plus virulent en Autriche. Donc, ils sont également plus nombreux en Allemagne qu'en France, en Italie et en Espagne. Alors, maintenant, ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Je reviens sur le deuxième point que j'avais abordé la dernière fois, savoir l'accession de Hitler au pouvoir, parce qu'aujourd'hui, j'aimerais à la fois faire un petit résumé, mais surtout, j'aimerais revenir sur deux points que je n'ai pas assez développé la dernière fois, qui est important pour bien comprendre la résistance qui s'est faite en Allemagne. Alors, je vous rappelle le contexte politique et économique de la République de Weimar pour les Allemands, c'est ce qu'ils appellent le Diktat de Versailles. Je rappelle rapidement que l'Allemagne est amputée de 1/7 de sa superficie, 1/10 de sa population. Elle perd notamment le couloir de Danzig, qui revient à la Pologne. Ce couloir de Danzig, c'est quelque chose d'essentiel, puisque dans ce couloir de Danzig, il y a 60% de germanophones, mais surtout 75% de l'industrie charbonnière et 60% de celle du fer. Quant à l'Autriche-Hongrie, qui devient Autriche maintenant, elle est complètement démantelée. La population, de façon générale, que ce soit en Allemagne ou en Autriche, se méfie énormément de la Nouvelle République, puisqu'elle est le résultat d'une défaite, très très humiliante. Elle est ressentie, cette République de Weimar, souvent comme imposée par les puissances. En tout cas, les nazis et l'extrême droite ont joué là-dessus, puissances étrangères. Alors, souvent, la démagogie de droite nomme ce phénomène le couteau dans le dos. Bien sûr, il y a aussi ce que l'on connaît, la crise économique, qui s'est vissée partout, mais en Allemagne, c'était très très grave, avec une inflation monstrueuse. Hein. Il faut savoir que pour acheter un pain, on l'a dit la dernière fois, il fallait transporter des billets de milliers de marques dans des brouettes. Et je rappelle qu'en 1932, donc l'année précédant l'accession d'Hitler au pouvoir, il y avait 6 millions de chômeurs en Allemagne, à savoir 1/3 de la population allemande était au chômage. Voilà. Donc ça, il faut savoir, c'est le contexte sur lequel a joué, bien sûr, l'extrême droite. La deuxième partie maintenant de la dernière séance, j'avais un petit peu de montrer les rouages des institutions démocratiques. J'aimerais revenir sur ce point parce que j'aimerais maintenant souligner deux choses. J'aimerais d'abord souligner la première chose, c'est que montrer comment les institutions, notamment le pouvoir du président de la République, Hindenburg à l'époque, tout cela a préparé en amont la voie au nazisme. Parce que ce n'est pas Hitler qui est arrivé d'un seul coup qui a tout changé. Ça s'est fait à partir des années 30, progressivement. Les premières mesures contre les libertés civiques, contre la presse, les rassemblements, les arrestations et tout, ça s'est fait bien avant Hitler, bien des années avant, et ça je vais vous montrer tout de suite, je vais vous le résumer. Et puis, la deuxième chose que j'aimerais un petit peu approfondir aujourd'hui, c'est le rôle de la grande industrie et des banques dans ce processus. Alors, pour illustrer mon idée, vous avez ici ce poster, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, Hindenburg, le vieux maréchal Hindenburg, qui avait à peu près 420 ans à l'époque, quand il est arrivé au pouvoir, il était président depuis 1925. Il a été élu avec 48,3% des voix. Alors il faut savoir que Hindenburg, en tant que président, il avait un énorme pouvoir exécutif. Tous les présidents ont eu un très grand pouvoir, un très fort pouvoir exécutif dans la République de Weimar. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'Allemagne actuelle, la République fédérale allemande actuelle, a retiré le pouvoir à son président. Et aujourd'hui, le président de la République fédérale allemande, il a très peu de pouvoir. C'est le chancelier qui détient essentiellement le pouvoir exécutif. Il a un pouvoir énorme, ce président, pendant la République de Weimar, puisque, entre autres, la Constitution prévoit, avec l'article 48, que il peut promulguer des lois et décrets, comme ça, sans l'accord du Parlement. Bref. Alors, première chose. Deuxièmement, il faut savoir aussi, connaître dans les institutions allemandes de l'époque, savoir que l'Allemagne, j'en avais parlé l'année dernière, hein, l'Allemagne, pendant longtemps, ça a été les Allemagnes. L'Allemagne, ça n'a pas existé. Ça n'a pas existé souvent. Donc, cette République de Weimar, c'est l'héritage de ces Allemagnes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs Länder avec des gouvernements autonomes. Il y a des Länder dans cette République de Weimar qui sont gouvernés à gauche, d'autres à droite. Donc, c'est le cas jusqu'à Hitler. C'est Hitler qui a supprimé l'autonomie des Länder. Donc, ces Länder ont une certaine autonomie politique. On va voir tout de suite comment les Länder qui sont gouvernés à gauche ont été musés bien avant Hitler. Donc ça a ouvert la voie royale à Hitler. Alors, par exemple, très rapidement, en janvier 30, donc 3 ans avant la succession d'Hitler au pouvoir, eh bien, il y a eu en Thuringe, il y a eu un gouvernement nazi déjà. Et à côté de ça, en Prusse, il y avait un gouvernement socialiste. En Saxe, il y avait aussi un gouvernement nazi. Donc, l'Allemagne, elle était très divisée aussi en matière de, par rapport à ses Länders, en matière de gouvernement. Alors, ça, il faudrait m'avoir ça en tête, parce que justement, les prédécesseurs du Hitler, ceux qui ont commencé tout ce processus, eh bien, ils ont commencé déjà à museler, on va voir tout de suite, les Länder qui étaient à gauche. Deuxième chose importante pour comprendre comment Hitler est venu au pouvoir, c'est le rôle de la grande industrie. Alors, je vous donne quelques exemples, mais ce sont des choses ponctuelles qu'il faudrait approfondir, bien sûr. En mars 1930, Hitler cherche le soutien de la grande industrie allemande, mais il ne le cherche pas en mars 1930, mais là, il le cherche depuis longtemps. Mais là, en 1930, il mène une campagne axée sur la grandeur de l'Allemagne, sur le rejet du traité de Versailles, bien sûr, sur la suppression de la corruption, tout ça c'est très démagogique, et ça c'est très important, sur l'affaiblissement du grand capitalisme juif. Ça c'est très important, parce que avec la persécution des juifs, il y a un derrière cette persécution des Juifs, il y a bien sûr la recherche, la volonté de d'affaiblir le capitalisme juif. Et on voit très bien ça dans le film de Visconti dont je vous ai parlé la dernière fois, l'Italie. Alors, il recherche, Hitler, l'appui de l'industrie allemande. En particulier, il va rechercher l'appui, je vous nomme quand même quelques personnes importantes faisant partie de l'industrie allemande. Émile Thierdorf, qui est patron du charbon à l'époque. Fritz Thyssen, alors c'est écrit T-H-Y-2-S-E-N, mais en allemand c'est de l'Y-Franci, donc c'est Thyssen. Alors Thyssen, c'est le roi de l'acier. Albert Föhler, qui est également dans l'acier. Gerd von Schindler, qui est le patron de IG Farben, la grande industrie chimique. August Rosberg et Augustin, qui est dans la potasse. Kuno, qui fait de la navigation. Conti, qui fait du caoutchouc. Le baron Kurt von Schröder, qui est dans la banque. Et bien sûr, la Deutsche Bank, qui a trois banques très importantes, à savoir la Deutsche Bank, la Dresdner Bank et l'Allianz. Je reviens à Hindenburg. On va voir par la suite comment ça va fonctionner, cette alliance avec la grande industrie. Alors, Hindenburg, il a à l'époque, dans les débuts des années 30, il a comme chancelier von Papen. Alors, c'est Hindenburg qui détient le pouvoir exécutif, bien sûr, mais donc son chancelier, c'est von Papen. Et je voudrais insister pour expliquer que von Papen, et en particulier Hindenburg, c'est eux qui ont initié le processus commencé, ils ont initié le processus, commencé à supprimer, eux, les libertés civiques. Ils ont décimé l'opposition avant qu'Hitler n'en arrive au pouvoir. Ils ont créé une atmosphère de terreur. Ils ont ouvert la voie royale à Hitler. Parce que Hitler, il a eu les pleins pouvoirs 4 ans après, mais où ils ont commencé? Alors, quelques étapes pour illustrer cette idée. En mars 1931, donc près de 2 ans après, avant qu'Hitler ne soit nommé chancelier, quand il est chancelier, il n'a pas tous les pouvoirs, Hitler. Il n'a pas encore les pleins pouvoirs, c'est Hindenburg qui a encore les pouvoirs. Alors, 2 ans avant qu'Hitler ne soit chancelier, Hindenburg promulgue une série de décrets-lois sont autorisés par l'article 48 de la Constitution, suspendant les libertés constitutionnelles et les libertés de la presse. Donc ce sont des décrets d'urgence. En décembre 31, en réaction, le dirigeant communiste Ernst Thälmann propose la formation d'un front uni avec les sociodémocrates. Il va bientôt proposer aussi une grève générale, mais les sociodémocrates ne vont pas suivre. En décembre 31 toujours, lors d'une conférence de presse devant des journalistes étrangers à Berlin, Hitler affirme que son parti arrivera au pouvoir par des voies légales. C'est ce qu'il va faire. Simplement, on va peut-être questionner la légalité quand on va voir comment ça a fonctionné. Qu'est-ce que la légalité? C'est une question que nous pouvons nous poser encore aujourd'hui. Le 20 juillet 1932, le chancelier von Papen, donc le chancelier de Hindenburg, signifie que le président Hindenburg a mis fin par un décret-loi, ça c'est une étape très importante, Hindenburg, par un décret-loi, a mis fin au gouvernement socialiste de Prusse, Otto Braun. Donc la Prusse, jusqu'à présent, était socialiste, SPD, social-démocrate, et finit, voilà. Donc ça, la mainmise de Hindenburg sur la Prusse est une étape essentielle. Et puis, quelques temps après, von Papen sort un deuxième décret-loi de Hindenburg qui instaure l'état d'exception à Berlin, la capitale de la Prusse, et dans le Brandenburg, qui est désormais sous le contrôle de la Reichswehr. Alors, vous voyez, ça, c'est quand même bien avant l'accession d'Hitler au pouvoir. On supprime les libertés, on muselle un gouvernement, la Reichswehr, l'armée, s'occupe d'un land. Bon. Et Papen lui-même est nommé alors le haut commissaire en Prusse. Le SPD, Parti social-démocrate, refuse la proposition de Ernst Thälmann, communiste, de grève générale, et appelle les ouvriers à garder le calme. Entre-temps, le gouvernement central, Lindenburg, procède à l'épuration de l'administration prussienne. En août 1932, le président Lindenburg promulgue encore un décret contre le terrorisme politique qui frappe essentiellement le KPD, donc le Parti communiste, et y met en place des tribunaux d'exception. On a dit que le terme n'est pas encore en cause, hein. C'est Lindenburg. En septembre 1932, autre étape importante, les industriels exigent au gouvernement l'interdiction des organisations syndicales d'obédience communiste. Le 19 novembre 1932, Hindenburg reçoit une pétition d'industriels comme Thyssen et de banquiers comme Schröder et Schacht réclamant la nomination d'Hitler à la chancellerie. Donc l'idée est venue des industriels, cette idée, parce que Hindenburg, il n'aimait pas trop Hitler au départ. Hein. Il craignait un peu qu'Hitler instaure une dictature. Mais les industriels vont lui insuffler l'idée, on va voir comment ça va se passer progressivement. Le 19 janvier 1933, donc une quinzaine à peu près avant l'accession d'Hitler au pouvoir, un peu moins, Hitler et von Papen rencontrent l'industriel Thyssen, encore celui-là, et lui soumettent leur projet de composition du gouvernement dit de concentration nationale. Le 27 janvier 1932, toujours en janvier, donc un an avant Hitler nommé chancelier, Thyssen invite Hitler à prononcer une conférence devant le club des industriels à Düsseldorf, et alors Hitler accuse le système parlementaire d'être à l'origine de la crise économique. Donc il est bien vu maintenant des industriels. Le 28 janvier 1932, il y a des accords secrets entre les manias de l'industrie, donc Krupp, qui est depuis 1931 Krupp, président de l'Union industrielle allemande, avec Hitler et Göring. Et enfin, on arrive à ce fameux 30 janvier 1933, Hitler est nommé chancelier par Hindenburg, il a 84 ans, Hindenburg, et il a le soutien des entreprises du grand capital. Le Parti communiste, le KPD, propose aux syndicats et aux SPD une grève générale, mais ceux-ci ne vont pas répondre à cette proposition. Refusant de sortir de la légalité, la voilà encore la légalité, tant que le gouvernement ne la viole pas, le SPD, les sociodémocrates, récuse la grève générale et appelle ses militants à rester sur le terrain de la légalité et de la Constitution. Mais alors, entre-temps, le gouvernement va promulguer une nouvelle ordonnance qui interdit toute manifestation. Le 4 février 1933, une quinzaine de jours après, Hindenburg, qui, je le rappelle, détient le pouvoir exécutif, à non pas Hitler, hein, dissout le Reichstag. En plus, Hindenburg, il signe de nouveaux décrets d'urgence qui restreignent les libertés de la presse, liberté de parole et de réunion, et aussi qui interdisent les journaux. Certains journaux, bien sûr, de gauche, d'opposition, des rassemblements. Ce décret permet aux nazis d'épurer et de noyauter l'administration et la police. Le 24 février 1933, donc à peu près un mois après l'accession d'Hitler à la chancellerie, suite à l'incendie de Reichstag, Hindenburg suspend quasiment toutes les libertés publiques sous prétexte de décret d'urgence. Suit en mars 1933 une vague sans précédent d'arrestations Rien qu'en Russie, je vous le rappelle, et la veille, jusqu'en 1932, un gouvernement situé à gauche, social-démocrate, rien qu'en Russie, 10 000 Allemands sont arrêtés en mars. On arrête les communistes, les sociaux-démocrates, les opposants, et on commence aussi à arrêter les juifs. En mars 1933, on construit les premiers camps de concentration, vous voyez, c'est avant les pleins pouvoirs à Hitler. On construit les premiers camps de concentration, le tout premier c'est Dachau, et les premiers détenus, j'insiste, les premiers détenus de ces camps de concentration, et c'est d'ailleurs ceux qui construisent leur camp de leur propre main, on les oblige à construire le camp, ce sont les détenus politiques. Les détenus politiques, les députés du Parlement, du Reichstag, les syndicalistes, les adhérents des différents partis de gauche et d'opposition, et aussi des gens d'église. Mais la présidence de Lindenburg est encore perçue par les dirigeants syndicaux comme, je cite, dans les dirigeants syndicaux qui disent ça à cette époque-là, comme la meilleure garantie que la Constitution ne serait pas violée. Le 20 février 1933, étape importante également, les représentants, donc près de deux mois après Hitler à Champelville, un petit peu moins, les représentants du monde économique sont invités à une rencontre au Reichstag, au Parlement, par Göring. Parmi les 25 invités appartenant à ce monde économique, il y a le président de la Reichsbank, Hjalmar Schacht, le banquier Kurt von Schröder, et les industriels Gustav Krupp et Halbach, Albert Vögler, ainsi que d'autres représentants de l'industrie lourde, du bâtiment et des banques. Ça, c'est très important, parce que Hitler leur présente son programme, qu'il salue avec enthousiasme. Le programme d'Hitler, c'est l'édification d'un État autoritaire, et c'est le démantèlement des syndicats marxistes, dit-il. Quel que soit le résultat du scrutin annoncé le 5 mars. C'était une nouvelle élection au Reichstag que je vais commenter tout de suite. Alors, ça c'est une étape énorme parce que Schacht, qui est le président de la Reichsbank, c'est la, donc la Reichsbank, c'est la banque allemande, invite les présents à financer la campagne électorale du parti nazi de NSDAP. Les manias de l'industrie offrent immédiatement, donc juste avant ces élections, nouvelles élections Reichstag, 3 millions de Reichsmark pour financer la campagne électorale des nazis. Le 28 février 1933, une semaine après, sur la demande de Hitler, Hindenburg suspend par un nouveau décret-loi la liberté des personnes. Donc c'est Hindenburg, c'est pas encore Hitler. Hein. La liberté des personnes, l'inviolabilité du domicile, la liberté d'opinion, la liberté de réunion, la liberté de presse, le secret postal. Il légalise l'internement préventif ou définitif d'individus jugés, entre guillemets, dangereux. Tout ça, c'est Lindenburg, c'est pas encore Hitler. Le gouvernement est autorisé à poursuivre toute personne soupçonnée de s'opposer à lui. Alors cela entraîne, bien entendu, une nouvelle vague d'arrestations massives, dont celle du journaliste Karl von Otsetsky, journaliste prussien dont je parlerai la prochaine fois parce que c'était le prix Nobel de la paix de l'année 33. Alors, tout ce qui est presse anti-nazi est interdit. Par exemple, l'organe du parti social-démocrate, Forwert, est interdit. Le 4 mars 1933, à la veille des élections au Reichstag qui auront lieu le lendemain, en plus, Göring organise une répression d'une ampleur sans précédent contre les opposants politiques. Parce que je vous rappelle, la plus c'est le dernier bastion social-démocrate. c'est dans ce contexte, entre le contexte économique et politique et tout ce qui a précédé depuis 1930 sous Hindenburg et von Papen, que se déroulent les élections du 5 mars 1933, les élections au Reichstag. Il faut vraiment bien se mettre en tête ce contexte pour comprendre ce chiffre, malgré tout ce qui se passe, malgré toute cette opposition qui est déjà décimée, internée dans les camps de concentration, arrêtée, etc., eh bien, le parti nazi obtient 43,9% des voix, mais 51,9% des voix, pratiquement 52% des voix, s'opposent aux nazis. Alors, il faut ne pas oublier non plus que cette campagne a été financée par les grands manias de l'industrie. Et que les meetings, la presse sont communistes sont interdits, réunion des sociodémocrates, etc. Des assassinats partout. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur ce poster et sur l'Allemand qui est le créateur d'une série de posters contre le nazi, je vais revenir à lui tout à l'heure. Donc, vous voyez ici, en allemand, ça veut dire le sens du salut hitlérien, Heil Hitler. Hein. C'est-à-dire que derrière lui, il y a des manias d'industrie de la banque qui donnent de l'argent. Et en bas, Kleiner Mann bittet um große Gaben, ça veut dire un petit homme demande de grands dons. Voilà. Alors, les résultats continuent sur le résultat de ces élections du 5 mars. Le SPD obtient 18,3% des voix et le Parti communiste 12,3%. Tous les deux ensemble, ils obtiennent 30,6%, mais ils ne veulent toujours pas s'allier. En tout cas, les sociodémocrates ne veulent pas s'allier aux communistes. Le centre, le Parti du centre, le Zentrum, c'est-à-dire les catholiques, obtiennent 11,2%. En tout cas, même avec l'apport des sièges nationalistes de von Papen, le NSDAP ne dispose pas de la majorité. Le 23 mars 1933, on inaugure une grande inauguration officielle du camp de concentration de Dachau, à 16 km de Munich, qui est réservé aux détenus politiques, communistes et sociaux-démocrates. Alors, ils sont internés dès mars 1933, des députés, du Reichstag, des journalistes, des syndicalistes, des fonctionnaires suspects, des intellectuels, bien sûr. Le 24 mars 1933, le syndicat patronal remercie Hitler d'avoir sauvé l'économie allemande. Le 23 mars 1933, nouvelle étape, au sein de ce nouveau Reichstag, ce nouveau Parlement, les partis conservateurs alliés au Parti catholique du Zentrum votent les pleins pouvoirs à Hitler. Alors, le KPD, le Parti communiste, je le rappelle, est interdit, ses membres sont arrêtés, donc ils ne siègent plus au Reichstag. Le mandat de ses députés est annulé. Et seul le SPD, donc en 23 mars 1933, par la voix d'Otto Wels, ose encore condamner la violence et s'y opposer. Alors, résultat, Hitler n'a pas encore les pleins pouvoirs, mais le parti nazi est maître du pays, alors qu'il n'a pas eu la majorité, si on analyse les choses. En juin 1933, le SPD, le Parti social-démocrate, est interdit, suit la dissolution des syndicats et de tous les autres partis. Il n'y a plus aucune opposition dans le pays. Le 2 août 1934, le vieux président Hindenburg meurt, et alors Hitler organise un plébiscite le 19 août 1934. Il se fait plébisciter chancelier président par 88% des électeurs inscrits. Je vous le rappelle, l'opposition est décimée, arrêtée, internée ou en exil. Je vous rappelle le climat de terreur, je vous rappelle que la campagne a été financée par de grands industriels allemands et américains aussi. Hein. Ça, je souligne aussi. 12% votent non parmi ceux qui peuvent encore voter. Mais qui peut encore voter dans ce pays? Parmi ceux qui n'ont pas encore fui d'Allemagne en masse depuis janvier 33, parmi ceux qui n'ont pas encore été arrêtés, qui ne sont pas dans un camp de concentration, qui n'ont pas été déchus de leur nationalité, car dès 1933, il y a des vagues de déchéance de nationalité, qui n'ont pas été interdits de citoyenneté et de suffrage, soumis à la terreur et à la propagande de Goebbels, etc. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En mars 1933, Hitler est chancelier depuis 3 mois. On a 43,9% de vote pour le parti nazi. En août 1934, un an et demi plus tard, 88%. La dernière fois, j'ai fait un petit parallèle avec ce qui s'est passé en France le 10 juillet 1940, lorsque les parlementaires ont voté les pleins pouvoirs constituant maréchal Pétain. Je ne reviens pas là-dessus. Alors, donc tout cela devrait nous mener à une réflexion sur les rouages des institutions démocratiques, les élections, l'égalité, on parlera peut-être tout à l'heure. Au sujet des résultats des élections, des diverses élections, personne la semaine dernière m'a demandé les chiffres concrets de toutes les élections au Parlement, au Reichstag et à la présidence de la République. Alors, je vous communiquerai, enfin, qu'elle vient tout à l'heure me voir, mais j'ai oublié mon livre, mais de toute façon, ce sera pour la prochaine fois. Et de toute façon, j'indiquerai ce livre dans la bibliographie de la dernière séance. La prochaine séance, la troisième séance de cette série de cours, parce que je vais aborder maintenant l'exil. Mais je vais quand même vous dire que je ferai la prochaine fois. Je vais aborder les mouvements, les réseaux de résistance en Allemagne, c'est-à-dire les gens qui étaient en première ligne, très peu connus. J'aborderai aussi le problème des églises, le pape, les catholiques, les protestants, comment ont-ils réagi, qu'est-ce qui s'est passé. J'aborderai rapidement la France collabo. Et les camps de concentration français qui internaient les Allemands et les Autrichiens qui fuyaient l'Allemagne nazie. J'aborderai dans ce cadre, un petit peu ce qu'était le groupe de ce qu'on appelait les indésirables dans les camps de concentration français. Et puis pour terminer, j'aborderai les cas de résistants allemands qui étaient dans la résistance en France. La quatrième et dernière séance sera consacré à une réflexion sur les suivistes, si on peut dire, ceux qui ont suivi en Allemagne, qui ont voté vraiment pour Hitler, et puis en France pour Pétain, qui ont soutenu Pétain. Une réflexion là-dessus. Ensuite, une petite réflexion sur la jeunesse hitlérienne. Et puis, je parlerai aussi de Günther Grass. Et pour terminer, donc, je ferai une bibliographie commentée concernant tout ce cycle de 4 cours. Alors maintenant, l'exil. L'exil des Allemands et des Autrichiens. Quand je dis Allemands, bien sûr, c'est des Autrichiens aussi. D'ailleurs, il ne faut pas oublier, je l'avais dit la dernière fois, il y a en Autriche, le nazisme est encore plus virulent et l'antisémitisme est encore plus virulent qu'en en Allemagne. Et que les Autrichiens se réfugient en Allemagne parce qu'ils trouvent que c'est beaucoup plus tolérant. Voilà. Donc, les Autrichiens sont particulièrement menacés par la répression. Alors, les exilés allemands dans le sens très large du terme, je ne vais pas dire autrichiens chaque fois, mais allemands dans le sens large du terme, germanophones, de culture germanique, qui ont résisté à leur façon au national-socialisme, ils venaient d'horizons différents. Souvent, ils étaient divisés, voire ils étaient opposés sur le plan politique, sur le plan religieux ou culturel. Mais ils avaient pourtant des objectifs communs. D'une part, ils voulaient incarner à l'étranger une autre image de l'Allemagne. Puis, par ailleurs, ils voulaient contribuer à la chute de la dictature nazie et prouver à l'opinion mondiale que les forces démocratiques allemandes luttaient contre l'hitlérisme. Il s'agissait pour ces exilés et résistants de se procurer aussi des informations sur ce qui se passait en Allemagne et de faire passer ces informations clandestinement avec des tracts, faire passer des tracts, des messages, de la littérature censurée clandestinement donc en Allemagne et en Autriche. Ils avaient donc un rôle aussi souvent de passeur entre la résistance intérieure, ils appelaient la résistance intérieure, c'est-à-dire à l'intérieur de leur tête, et à l'étranger. Avant de me consacrer un petit peu à l'exil de ces Allemands et Autrichiens, je voulais quand même mentionner une chose sur laquelle je reviendrai dans la prochaine séance, c'est qu'environ 5000 Allemands et Autrichiens, pour la plupart des communistes et des sociodémocrates, se sont engagés à partir de 1936 dans la guerre civile d'Espagne aux côtés des Républicains, au sein des brigades internationales. Et il faut savoir quand même que les deux tiers d'entre eux sont morts au combat. J'en reparlerai la semaine prochaine. Je reviens aux intellectuels allemands qui émigrent en masse vers les autres pays européens ou vers l'Amérique. Au départ, ils pensent que c'est pour une courte durée. Ils estiment que le parti nazi ne pourra pas rester longtemps au pouvoir. Ils vont déchanter bientôt. Ce que je voudrais dire aussi par rapport à la France, c'est que la France accueille ses réfugiés pendant quelques semaines, mais très vite. Elle leur ferme les frontières, confiant la gestion du problème à la Société des Nations. Alors, les émigrés allemands et autrichiens connaissent à Paris la misère matérielle et psychologique. Pour la plupart, ils survivent d'hôtel en hôtel minable dans des chambres miteuses du quartier latin à Paris. Ils sont sans argent. Ils sont bien sûr sans lien à leur patrie, ils sont seulement tolérés dans le pays qui les accueille, à savoir en France. Car le gouvernement français continue d'entretenir jusqu'à 1939 des relations officielles avec l'Allemagne nazie. Parmi ces exilés, on va le voir tout de suite, il y aura de nombreux suicides, des gens qui n'ont pas supporté ce qui leur arrive et ce qui arrive à l'Allemagne. Alors, je vais tout d'abord, le premier groupe d'exilés sont les écrivains. Ils sont en exil rassemblés dans la Ligue de défense des écrivains allemands. Je mentionne un congrès des écrivains antifascistes qui a eu lieu en 1935. Et je souligne encore une fois qu'en France, ce congrès des écrivains antifascistes en 1935 a rencontré la différence totale de la presse française. Le Figaro, Le Temps, La Croix, personne n'en a parlé. Alors voici maintenant quelques écrivains prestigieux pour illustrer cet exil. Alors il n'y a pas eu des personnes prestigieuses qui se sont exilées, mais je vais les mentionner parce que ce sont des gens quand même importants. Il y a eu bien sûr Thomas Mann. Thomas Mann, 1875-1955. Je vous rappelle que c'est entre autres l'auteur de La mort à venir, de La montagne magique, sont des chefs-d'œuvre de la littérature mondiale. Je vous rappelle que Thomas Mann a eu le prix Nobel de littérature en 1929. En octobre 1930, dans un discours, appel à l'Vernunft, c'est-à-dire appel à la raison, Thomas Mann prononce donc un discours où il appelle à la condition de tout. À la coalition, de tous les démocrates contre le national-socialisme. Et en 1933, il est obligé, parce qu'il est menacé, sa vie est menacée, d'émigrer en Suisse. En 1936, il est un exemple, entre des milliers et des milliers, il est déchu de sa nationalité allemande. En 1938, il part aux États-Unis. Alors voici ce que Thomas Mann a déclaré sur une radio le 27 juillet 1943. Je cite Thomas Mann. Si vous ne vous débarrassez pas de cette racaille qui souille et déshonore aussi bien vous-même que l'humanité tout entière, alors tout sera perdu, la vie et l'honneur. Voilà. Ensuite, il y a, j'aurais à mentionner, Heinrich Mann, 1871-1950, qui est le frère de Thomas Mann. Il y a trois frères qui vont s'exiler. Donc Heinrich Mann, lui, c'est un écrivain également, Hein, je vous rappelle qu'il a écrit Professeur Unrat, par exemple, en 1905, et que ce roman a été adapté pour le cinéma en 1930 par Josef von Sternberg sous le titre de L'Ange Bleu, avec Emilia Mintz et Marlène Dietrich. Heinrich Mann, il est pacifiste aussi. Il est, donc, le 16 février 1933, il démissionne de son poste de président de l'Académie des Beaux-Arts de Prusse. Vous vous souvenez qu'à cette époque-là, on a mis supprimé le gouvernement social-démocrate de Prusse. Sous Hindenburg et von Papen, hein, je l'ai mis tout à l'heure. Alors là, exil à Paris en 1933, Heinrich Mann, et il est déchu aussi, bien sûr, de sa nationalité allemande. Le troisième frère, Klaus Mann, écrivain également, quitte l'Allemagne en mars 1933. Des escales de Paris, Nice, États-Unis, Portugal. À Paris, il rencontre d'autres exilés, Brecht, Feucht, Wangler, Remarque, sur lesquels je vais revenir tout à l'heure, et d'autres encore. Mais lui, Klaus Mann, il n'a jamais supporté l'exil, il se suicide en 1949 finalement, en 43 ans. Un autre grand écrivain, Erich Maria Remarque, vous vous souvenez de son roman qui est paru en 1929, À l'Ouest, rien de nouveau. Ce roman, À l'Ouest, rien de nouveau, est interdit en Prusse en 1930 à partir du moment où les nazis, enfin, Hindenburg plus précisément, supprimé ce gouvernement social-démocrate en Prusse. Son livre, à l'Ouest, rien de nouveau, est brûlé en 1933 parmi beaucoup d'autres, et puis d'autres interdictions suivront. Il s'exile à Panama, Paris, aux États-Unis. En 1938, comme tant d'autres, il est déchu de sa nationalité allemande. Et en 1943, une des sœurs de Erich Maria Remarque, Elfriede Scholz, est condamnée à mort en Allemagne pour atteinte au moral de l'armée. Elle est décapitée à la hache. Elle meurt, et alors, donc, non pas elle, mais son frère, Erich Maria Remarque, meurt finalement en Suisse en 1970. Autre écrivain prestigieux, Stefan Zweig, écrivain autrichien, en exil en 1934 à Londres, en 1936, ses livres sont interdits en Allemagne, exil en Amérique latine, au Brésil, où il se suicide en 1942. Ce suicide, écrit-il lui-même, est librement consenti et en toute lucidité. Ce sont ces mots, Stefan Zweig. Ce suicide fut la conséquence de la mélancolie consécutive au manque de perspective en exil et surtout de son désespoir quant au régime nazi en Allemagne et en Autriche. Et d'ailleurs, donc il est mort au Brésil, il s'est suicidé au Brésil en 1942, Stefan Zweig, et au Brésil aujourd'hui, il y a la Casa Stefan Zweig, qui est un centre dévolu à tous les artistes intellectuels et scientifiques qui durent s'exiler d'Allemagne et d'Autriche pendant le nazisme. Autre écrivain prestigieux, Josef Roth. Alors, c'est un écrivain et journaliste autrichien qui est né en Ukraine, qui était alors autrichienne, et qui est de confession juive. Il a surtout vécu dans sa vie à Berlin, à Vienne, puis à Berlin, avant de fuir le nazisme dès 1933. Le 30 janvier 1933, c'est-à-dire le jour de la nomination de Hitler à la chancellerie, Roth quitte immédiatement l'Allemagne. Dans une lettre à son ami Stefan Zweig, il fait preuve d'une étonnante clairvoyance. Alors je cite ce que Josef Roth écrit à Stefan Zweig, le 30 janvier 1933. À présent, il vous sera évident que nous allons vers de grandes catastrophes. Abstraction faite du privé, notre existence littéraire et matérielle est déjà anéantie. L'ensemble conduit à une nouvelle guerre. Je ne donne pas cher de notre vie. on a réussi à laisser la barbarie prendre le pouvoir. Ne vous faites pas d'illusions. C'est l'enfer qui prend le pouvoir. Janvier 1933. En 1933, ses livres aussi, Joseph Roth, sont brûlés. Roth choisit d'abord Paris comme lieu d'exil, puis entreprend différents voyages aux Pays-Bas, en Pologne, et finalement, il va vivre à Nice. Il rédige des articles pour le magazine d'exil Das Neue Tagebuch, le nouveau journal. En mars 1939, pour le premier anniversaire de l'annexion de l'Autriche, Roth participe à plusieurs rassemblements politiques. Une grande manifestation de la Ligue de l'Autriche vivante, dont Roth est vice-président avec Franz Werfel et Émile Alphonse Reinhardt, se tient à Paris. En mai 1939, Roth apprend le suicide de Ernst Toller, c'est un dramaturge communiste allemand, à New York. Alors, au passage, Ernst Toller, donc, ce dramaturge communiste allemand, il s'est suicidé parce qu'il avait des ennuis personnels, mais aussi parce qu'il a eu de très très gros soucis financiers, parce qu'il avait donné tout son argent aux réfugiés de la guerre d'Espagne. Alors, à l'annonce du suicide d'Ernst Toller, Joseph Roth s'effondre, il était déjà en mauvaise santé, il est transporté à l'hôpital Necker à Paris, où il meurt. Je vous rappelle que Joseph Roth est l'auteur, entre autres, de la marche de Radetzky. Il avait fini par s'adonner à la boisson, sans espoir depuis l'invasion de l'Autriche par les nazis. Il décède donc en 1939, à 45 ans, à Paris. En juillet 1940, son épouse, Friederike Roth, est transférée à l'hôpital psychiatrique de Niedenrad, près de Linz, en Autriche, où elle est euthanasiée. Comme l'ont été, entre parenthèses, beaucoup d'internés dans les asiles psychiatriques. Un autre grand écrivain prestigieux, Kurt Tucholsky, journaliste et écrivain, critique de la société de son temps et de la République de Weimar également, démocrate, pacifiste, antimilitariste. Dans une de ses lettres, il écrit en 1935, qui est l'année de sa mort, je le cite, « Je n'ai pas besoin de vous dire que le monde a cessé d'exister en Allemagne. Je vais donc fermer ma gueule. On ne peut pas siffler contre un océan. » Alors Kurt Tucholsky, il va finir par se suicider, lui aussi également, en exil. Il se suicide en 1935. Autre écrivain prestigieux, Vanes Sperber, qui est un écrivain de nationalité française d'origine autrichienne. Il est mort à Paris le 5 février 1984. En 1927, il s'installe à Berlin où il rejoint le KPD, donc le Parti communiste. En 1934, il émigre à Paris où il fréquente André Malraux. Et d'ailleurs, André Malraux a écrit un roman, Le temps du mépris, qui a été publié en 1935. Et dans ce roman, Le temps du mépris, Malraux a pour source d'inspiration Vanesse Sperber, puisque dans ce roman, il narre l'histoire d'un écrivain communiste emprisonné par les nazis, puis libéré grâce à l'aide d'un camarade. Donc c'est tout à fait inspiré du sort de Vanesse Sperber. Vanesse Sperber travaille pour l'International communiste avec Willy Münzenberg, qui est aussi un exilé. Il quitte l'International communiste en 1937 après, à cause des purges staliniennes. Il commence alors un travail de réflexion sur le totalitarisme et sur le rôle de l'individu dans la société. En 1939, il se présente comme engagé volontaire dans l'armée française. Et en 1942, lorsque les déportations s'intensifient en France, il fuit la France et part en Suisse. Mais il va survivre. Et puis bien sûr, parmi ces prestigieux écrivains, il y a Bertolt Brecht, 1898-1956, qui fut d'abord anarchiste, puis communiste. Son œuvre est brûlée lors de l'autodafé du 10 mai 1933. En 1935, il est déchu de sa nationalité allemande. En 1933, son domicile est perquisitionné. Alors il fuit l'Allemagne avec sa femme, Hélène Weigel, au Danemark, puis à Prague. Je vous rappelle que Bertolt Brecht, elle écrit notamment, s'est opposé aux nazis de façon très concrète, avec notamment deux pièces de théâtre que je vais citer tout de suite. En 1938, en traduit en français, Grand-peur et misère du Troisième Reich. Et en 1941, La résistible ascension d'Arturo Uli, qui est une attaque contre Hitler. Autre écrivain d'importance en Allemagne, c'est Anna Degas, qui est une romancière de confession juive, 1900-1983. Militante communiste, arrêtée en 1933, elle est relâchée par miracle. Elle se réfugie en France, puis en 1941 au Mexique, où elle devient présidente du Heim Club, groupe d'écrivains antifascistes exilés. En 1947, elle devient, donc après la guerre, une personnalité culturelle importante de la RDA, de l'Allemagne de l'Est. Pendant son exil, elle écrit notamment son roman qui s'intitule La Septième Croix, qui paraît en 1941. Et ce sont des romans dans lesquels elle dépeint la montée du nazisme et la lutte antifasciste dans l'Allemagne hitlérienne. Dans son roman, en particulier dans son roman Transit 1944, sur lequel je reviendrai la semaine prochaine, elle décrit les conditions de vie précaires et le destin tragique des réfugiés allemands à Marseille. Alors, dernière écrivain que je vais évoquer ce soir, Ernst Toller, dont j'ai parlé tout à l'heure déjà, c'est un dramaturge communiste allemand. En 1933, il est arrêté par les nazis qui le torturent. Alors, voici ce qu'il dit de sa torture. C'était terrible et inhumain. Les gardes m'ont forcé à avaler presque un volume entier de mes derniers livres. Il s'exile, il est déchu, bien sûr, de sa citoyenneté allemande élue dès 1933. Il part à Londres, puis aux États-Unis, puis au Canada, et il est installé en Californie, où il travaille à des scénarios qui ne sont pas produits. En 1936, à New York, où il vit au milieu d'un groupe d'artistes et d'écrivains en exil comme Klaus Mann et Eric Kamal, Thérèse Guise et d'autres, il s'enfonce dans une profonde dépression, notamment, je le disais tout à l'heure, des soucis financiers énormes, puisqu'il a donné son argent aux réfugiés de la guerre d'Espagne. Alors il se pend dans sa chambre le 22 mai 1939. Voilà quelques-uns des plus prestigieux écrivains de langue allemande. Il faut savoir qu'environ, là ce sont quelques exemples parmi les plus prestigieux, mais il faut savoir qu'environ 2500 écrivains germanophones s'exilèrent pour des raisons racistes ou politiques parce que, en Allemagne ou en Autriche, ils risquaient leur vie. Ces intellectuels allemands, ils ont organisé des conférences, ils ont organisé des expositions, ils ont monté des cabarets satiriques, ils ont mis en scène des pièces de théâtre interdites en Allemagne, ils ont fondé des comités de lutte antifasciste, à leur façon, ils luttaient contre le nazisme. Donc, une résistance intellectuelle qui s'est exprimée par des œuvres littéraires ou des actions ponctuelles, mais qui a également donné lieu à la création de cercles de réflexion et de publications antifascistes. Je cite en particulier une publication qui s'intitule « Le livre brun sur l'incendie du Reichstag et la terreur d'Hitler ». C'était publié en 1933, ça a été traduit en 15 langues et ça a été tiré à plus d'un demi-million d'exemplaires. En 1934, fut créé à Paris sur l'initiative d'Heinrich Mann, en régie des Romains Rolland, une bibliothèque des livres brûlés en Allemagne. Donc, les livres brûlés lors de l'autodafé de 1933. L'association de défense des écrivains allemands, que j'évoquais tout à l'heure, fondée à Paris, diffusait de son côté clandestinement en Allemagne des journaux, des revues et des discours antifascistes. De la sorte, plus de 400 journaux, revues et bulletins d'information furent ainsi publiés, dont une partie pu être diffusé clandestinement dans le Reich. Alors, je cite entre autres Das Wort, créé par Feuchtwanger, Brecht et Drevel, édité par Klaus Mann, Das Deutsche Volksecho, publié par Stefan Heil, Die Frontbox, destiné aux soldats allemands, et publié par Stefan Heil. Donc. Et en 1933, fut fondée à Paris l'Express, qui était une agence de presse indépendante, créée par Kurt Rosenfeld et Xander Rado. Elle fournit cette agence de presse indépendante jusqu'en 1936 des commentaires critiques sur l'Allemagne nazie. Pour terminer sur l'exil, mentionnons quelques articles quand même. Alors il y a bien sûr un des plus connus par le clé, il y a beaucoup d'articles qui se sont exilés. Et donc, c'est juste un exemple. Par le clé, en 1933, il est déclaré, je cite, artiste décadent. Il est renvoyé de son poste de professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf. En 1937, 102 de ses œuvres sont confisquées comme art décadent par les nazis. Alors, Paul Klee s'exile à Berne en 1935 et il meurt en 1940 à Locarno-Morazzo. Je cite aussi Kurt Schwitter, qui est un peintre allemand, poète et graphiste, qui est considéré aussi comme décadent. Il émigre en 1937 en Norvège. Avant d'aborder John Sartreid, donc on voit le poster ici, je signale aussi Marlène Dietrich quand même, qui était actrice et aussi chanteuse, et qui est partie aussi, qui a quitté l'Allemagne, qui s'est exilée, qui a chanté Lili Marlène. Alors Lili Marlène, dont la traduction française est désastreuse, parce que c'est Lili Marlène est un poème magnifique, qui est intraduisible, parce que justement c'est un poème, c'est une chanson en gros, qui dit la mélancolie de celui qui doit partir à la guerre et quitter la femme qu'il aime. C'est très 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 beau ce texte. Elle a été écrite, cette chanson, par un poète allemand pendant la Première Guerre mondiale, donc c'était une chanson, disons, pacifiste. Elle est devenue, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la chanson préférée des soldats allemands. Et cette chanson, Lili Marlène, il faut savoir que Hitler l'a interdite. Pourquoi? Parce qu'elle démoralisait trop les troupes. Alors, Marlène Dietrich, qui luttait à sa façon contre le nazisme, l'a chantée en 1943 devant les soldats alliés. À partir de là, cette chanson a fait un tabac dans le monde entier. Elle a été traduite dans un tas de langues. Et d'ailleurs, petite anecdote, la dernière version en date, en allemand bien sûr, date de 2005, c'est une version métal. Voilà. Donc, un texte absolument magnifique. Et aussi une musique très très belle. Alors, oui, je voulais vous parler maintenant de John Sartreid. John Sartreid, c'est un nom à consonance anglaise. En fait, c'est un pseudonyme, c'est un allemand qui se cache derrière ce nom de John Sartreid. Il est né à Berlin, cet artiste. C'est un artiste style dada qui a fait beaucoup de collages. Je vous en montre trois. Donc, il est né à Berlin en 1891. Il a grandi en Allemagne et a été violemment critique à l'égard de la République de Weimar. Alors, son œuvre est interdite pendant le Troisième Reich, bien sûr. Ses parents étaient socialistes, mais lui-même, à l'école, s'engage dans le communisme. Et peu après l'incendie du Reichstag, il fuit avec son frère en direction de Prague. Il fait paraître une revue pendant 2 ans, qui est le principal magazine littéraire de la gauche émigrée. En 1936, il se trouve en Angleterre. Et après la guerre, avec le soutien de son ami Brecht, il travaille sur des décors de théâtre en RDA. Et il meurt en 1968. Alors, vous voyez ici ce poster, dont je vous rappelle, en français, traduit en français, c'est le sens du salut hitlérien. Heil Hitler, c'est le terme qui récupère les marques. Alors, il y a un petit facteur marqué.
Avec les flèches en bas. Les flèches qui sont en bas.
Les flèches d'en bas.
Ah, non, c'est bizarre.
Je vais montrer les deux autres. Celui-là est très connu. Et on parle avec les petits hommes solitistes de grand bon. Voilà, donc voici un autre poster. Ce sont des collages. Hein. Donc, c'est commenté parce que ça, c'est un livre, donc c'est une couverture, donc on ne voit pas le commentaire en allemand dessous. Et le commentaire en allemand dessous, c'est Hitler à Val de l'Or, les crashs de la ferraille. C'est-à-dire que bon, il est financé par les grands magnats de l'industrie, et puis il recrache la guerre. Quoi. Et puis l'autre.
Donc, c'est avant, je pense. Flèche d'avant, je pense. Voilà.
Alors là. Il a fait un collage avec Hitler manipulé comme une marionnette manipulée par Thyssen, vous voyez, Thyssen, donc le grand mania de l'industrie. Et en bas, c'est écrit l'outil, une question, hein, est-ce que c'est un outil dans les mains de Dieu? Non, c'est un objet dans la main de Thyssen. Voilà. Donc voilà. Voilà ce poster de John Arthur. Je suis pour terminer. Pour terminer, je parle de quelques hommes politiques en exil. En avant-première de la prochaine séance qui sera consacrée à la résistance active à Hitler. Willy Brandt, bien sûr, qui est au Parti social-démocrate au SPD depuis 1930, et dans une filière à gauche du parti. Il émigre en Norvège, il fait la résistance active, et il faut savoir que Willy Brandt, qu'il a gardé comme son nom, c'est son pseudonyme de résistant. En 1937, il est reporter dans la guerre civile espagnole. En 1938, les nazis lui retirent, bien sûr, lui a eu aussi sa nationalité allemande. Alors, il est aussi prisonnier pendant l'occupation de la Norvège par les nazis. Alors, je rappelle que Willy Brandt a été le premier chancelier de la République fédérale allemande. Il a été élu en 1969. Et puis, je cite aussi un autre homme politique, Ernst Jeck, qui est un homme politique libéral, co-fondateur du parti libéral DDP et président de l'Institut allemand des études politiques de Berlin. Il s'exile à Londres, il est nommé directeur d'une société londonienne et enseigne à partir de 1940 à l'université, à la Columbia University de New York. Il a été conseiller des ministres des Affaires étrangères britanniques et américains. Bien d'autres, dont je parlerai la semaine prochaine, sont internés en France, dans des camps français. Donc je vous rappelle, pour terminer, les thèmes de la séance prochaine, de la troisième séance, c'est tout d'abord les réseaux de résistance en Allemagne, ce qui était donc en première ligne. Ensuite, le rôle des églises, du pape, des catholiques, des protestants. Ensuite, sous la France collabore, les camps de concentration français. Le groupe des indésirables, on verra ce que c'est, et puis les résistants allemands dans la résistance en France. Et il y a la bibliographie, les ouvrages sur lesquels je me suis appuyée pour vous proposer ces cours, ce sera la toute dernière séance, enfin la fin de la séance. Je vous remercie pour votre attention.